Une autre question. Est-ce que Jésus détient les clés de la mort et de l'enfer? Est-ce exact de dire que Satan ne peut pas prendre notre vie? Disons que techniquement, il ne devrait pas avoir le droit. Mais il est un voleur. Il vient pour voler, détruire et tuer. Techniquement, il n'a pas cette autorité, pas plus d'ailleurs qu'un voleur de banque a l'autorité d'aller prendre l'argent dans une banque. Mais il le fait quand même. C'est pourquoi vous êtes le policier de Dieu. Et c'est pourquoi vous devez l'arrêter. Si vous le voyez agir comme cela, arrêtez-le. Nous avons plusieurs autres questions, je vais en lire une. Alors, tout ce qui a trait à la vie, à la sainteté, aux provisions de Dieu, à la guérison, tout ce qui est inclus dans l'expiation. Par exemple, vous allez lire le passage du chapitre 53 d'Ésaïe. Alors, tout ce qui est inclus dans les versets qui nous révèlent l'expiation que Jésus a accomplie à la croix et qui ont un rapport à la vie humaine, et même en ce qui a trait à ce qu'on a déjà discuté au niveau des directions que Dieu donne, il y a un passage qui dit, Dieu nous dit, « Je vais te diriger avec mon œil. » En d'autres mots, si votre pensée est régénérée avec la parole de Dieu, vous allez aussi commencer à voir de la manière que Dieu voit. Et vous serez capable de voir ce qui est mal et aussi être capable de voir ce qui devrait être réparé, amené à bien. Et à mesure que Dieu vous guidera avec ses yeux, c'est-à-dire ce qui va être en ligne parfaite avec la parole de Dieu, alors vous serez capable de voir les situations comme Dieu les voit. Vous savez, il n'est pas nécessaire d'être très spirituel pour comprendre que, par exemple, si nous allons à un hôpital pour enfants et de voir tous ces enfants souffrant et de pouvoir dire « cela n'est pas correct ». Alors, je vais parler très clairement. Si vous allez dans un hôpital pour enfants et que vous voyez les enfants malades, et si vous croyez d'une quelconque façon que Dieu a quelque chose à voir avec cette situation-là, alors honnêtement, vous devriez être Dieu à sa place. Je choisis ici le cas des enfants parce que nous savons qu'ils sont purs, qu'ils sont innocents et qu'ils n'ont rien fait pour mériter cela. Parce que dans le cas des adultes, on va toujours dire « Ah, c'est de leur faute, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être malades comme ça? » Et le fait que vous soyez, que vous regardiez à de telles situations et ressentir de la compassion, cela prouve l'existence de Dieu. En tant qu'être humain, généralement, nous sommes centrés sur nous-mêmes. Malgré cela, la majorité des humains ont cette petite étincelle en eux qui vont leur faire réaliser que de telles situations d'enfants malades, ce n'est pas correct. Les médecins sont parfois plus près du cœur de Dieu que l'Église parce qu'eux ont vraiment à cœur de guérir les malades. Tandis que l'Église essaie de parfois trouver des raisons pour justifier la maladie. D'autre part, si nous étudions un peu ce que dit la psychologie, on va reconnaître qu'il y a un mécanisme dans l'être humain, un mécanisme d'autodéfense, ou je pourrais dire un mécanisme d'autoprotection. Nous voyons souvent cela se manifester dans des gens qui ont vécu de grandes souffrances, des prisonniers de guerre, par exemple les gens qui ont eu part au génocide au Rwanda. Et lorsqu'une personne atteint un niveau de souffrance insupportable, alors plutôt que de devenir fou, ils vont déclencher ce que j'appelle ce mécanisme-là, qui va les amener à chercher une raison, à rationaliser ce qui se produit. Et là, ils vont venir à penser, il doit y avoir quelque chose de plus grand, il doit y avoir en fait une raison pour laquelle je traverse ces souffrances. Les gens qui ont été persécutés sous le régime nazi, certains affirment justement qu'ils se disaient, il doit y avoir une raison pourquoi je traverse toutes ces horreurs. Plutôt que de simplement en venir au fait et de réaliser qu'un être humain peut devenir aussi diabolique. Et même possédé de Satan au point de ne plus avoir aucun sentiment pour les êtres humains et qu'ils peuvent facilement les détruire cela sans qu'ils ne soient touchés. Il n'y a aucune logique à cela sinon qu'une manifestation purement démoniaque. Et dans l'histoire de l'Église, nous avons Augustin qui a parlé sur ce sujet-là et qui, lui, appelait ça la souveraineté de Dieu et qui a amené cette souveraineté à un extrême. Et si vous amenez cette doctrine de la souveraineté de Dieu à un extrême, alors là, vous anéantissez le libre arbitre de l'être humain qui doit choisir si oui ou non il désire servir Dieu. Alors les gens me demandent parfois, est-ce que tu crois à la prédestination? Je leur dis oui, bien sûr. Et j'ajoute, je suis prédestiné à devenir conforme à l'image de Jésus-Christ. Et c'est ce que je crois au sujet de la prédestination. Et je crois que Dieu m'a donné une liberté de choisir, et plus je vais choisir les choix de Dieu, plus j'amène ma volonté en alignement avec celle de Dieu, plus je lui donnerai gloire. Alors est-ce que je crois que Dieu est à l'arrière-scène et qu'il peut agir d'une manière concrète? Bien sûr. Alors c'est comme si Dieu est en train de jouer aux échecs, mais avec un jeu d'échecs à 9 niveaux de haut, et qu'il est capable de tout faire agencer cela en même temps. Et malheureusement, les chrétiens utilisent l'aspect de la souveraineté de Dieu comme un échappatoire et comme une excuse pour ne rien faire. Tandis qu'en réalité, ce que nous devrions être en train de faire, c'est ce que Dieu nous a commandé de faire. Les gens disent « Crois-tu en la souveraineté de Dieu? » Bien sûr, je crois que Dieu a placé souverainement dans la Bible le commandement que je dois aller vers les malades, imposer les mains et les guérir. Alors ils vont ajouter « Ben, je vois pas du tout la souveraineté de Dieu dans cela. » Au contraire, la souveraineté de Dieu est justement dans le fait que je vais obéir à ce qu'il a souverainement décrété. Et Dieu savait, au cours des âges, que j'allais lire sa parole et que j'allais commencer à obéir à sa parole. Alors c'est la souveraineté de Dieu qui a fait qu'il place ces choses dans la Bible. D'autres gens vont dire, non, tu ne comprends pas la souveraineté de Dieu parce que tu es en train d'affirmer que tout le monde devrait être guéri. Et je vous dis que oui. Alors je ne suis pas en train d'enlever les gens hors de la souveraineté de Dieu. Au contraire, c'est comme si j'ajoutais en quelque sorte à sa souveraineté. Et vous allez dire, comment est-ce que tu peux faire cela? Tout simplement parce que je suis en train d'accroître et d'agrandir son règne souverain sur la terre. Et j'agis envers les gens qui, actuellement, ne sont pas souverainement conduits par Dieu. J'aimerais vous dire quand même que je ne suis pas toujours centré seulement sur la guérison. Il est vrai que c'est un point fort dans ma vie, mais cela est venu à cause de différentes expériences que j'ai vécues dans ma propre vie. Et les gens vont dire à ce moment-là, « Ah, tu vois, alors c'est Dieu qui t'a conduit souverainement sur ce sentier. » Et moi, je dis non, ce n'était pas Dieu. La chose est que c'est le diable qui a fait une erreur. Il aurait dû me laisser tranquille. C'est ce que le diable aurait dû faire. Et il m'a poussé jusqu'à mon extrémité. Et je me suis dit, je vais faire en sorte que la vie de ma petite fille qui a été volée par Satan soit l'une des vies qui lui aura coûté le plus cher. Et je veux amener le diable à regretter de ne pas m'avoir laissé tranquille. C'est aussi simple que cela. Et c'est mon choix de vie de vraiment faire en sorte que ça va lui avoir coûté très cher. Alors, je le répète, la guérison n'est pas une fin en soi, ce n'est pas la seule chose. Si une personne connaissait seulement cet aspect de la guérison, alors ils vont manquer d'équilibre et il y a un danger qu'ils dérapent vers des doctrines bizarres. Mais les principes que je vous enseigne fonctionnent dans tous les aspects de la vie chrétienne. Ils fonctionnent pour la délivrance, ils fonctionnent pour le salut, ils fonctionnent pour la guérison, la prospérité. Alors comprenez bien que lorsque je parle de prospérité, je ne suis pas en train de tomber dans les exagérations là, comme certains l'ont fait. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 8, on dit que c'est Dieu qui nous donne la capacité de s'enrichir pour qu'il puisse établir son alliance sur la terre. Tout ce que j'ai lui appartient et c'est pourquoi tous les biens que je possède devraient être utilisés pour l'expansion du royaume de Dieu sur terre et non pas pour amasser des tas de biens et de mourir avec un compte en banque bien garni. Mon but, c'est de mourir avec rien. J'ai dit à mes enfants, vous êtes mieux de recueillir tout ce que vous pouvez maintenant parce que lorsque je mourrai, tout aura été déjà distribué. D'ailleurs, j'espère et je prie, une fois que je serai mort, que les gens pourront dire de moi ce qu'ils ont dit au sujet de John Wesley. Lorsqu'il est mort, il a laissé derrière lui plus de 14 000 sermons. Il avait seulement 6 pièces d'argent dans ses poches qui seraient données à l'homme qui allait creuser pour l'enterrer. Il avait aussi quelques ustensiles qu'il utilisait dans ses voyages. Et il a laissé aussi derrière lui l'Église méthodiste qui, à cette époque-là, était le récipient de la puissance de Dieu. Elle n'a pas la même puissance aujourd'hui qu'à cette époque. Et c'est ce que j'aimerais laisser derrière moi. Alors, je me souviens que le docteur Sumrall nous disait, « Lorsque je vais mourir, j'aimerais qu'on écrive ceci sur ma pierre tombale. Ici, J. Leslie Sumrall, un homme de foi. » Alors, je n'étais pas là lorsqu'il est décédé, donc je suis allé par la suite où on l'avait enterré et je voulais aller voir si ses trois fils, Stephen, Peter et Frank. D'ailleurs, son fils Stephen a baptisé mon fils lorsque nous étions là, il y a plusieurs années évidemment de cela. Et effectivement, je suis allé au cimetière et sur la pierre tombale était écrit « Ici Leslie Sumrall, un homme de foi ». Et ce qui m'a aussi frappé, lorsque je lis concernant le décès du Dr. Lake et son eulogie, d'ailleurs, il y avait un homme là qui avait travaillé avec lui, c'était en 1935, et qui est devenu le pasteur de l'église lorsque Dr. Lake est décédé. Et il a dit dans l'eulogie, lorsque le Dr. Lake est venu ici à Spokane, il nous a trouvés là, étant des gens malades, découragés et croyant que la victoire était à plusieurs lieues de nous. Alors il est venu ici, il nous a guéris, il nous a libérés et il nous a appris que la victoire était accessible maintenant. Et il a ajouté, le Dr. Lake avait l'habileté de pouvoir transmettre la foi aux gens qui l'écoutaient. Et j'aimerais beaucoup que l'on puisse dire la même chose de moi lorsque je serai décédé. Et si je laissais à mon fils un certain montant d'argent, alors cet argent-là, après un certain temps, sera disparu. Mais si je lui laisse comme héritage la foi en Dieu, alors là, il ne sera jamais déçu et il ne manquera jamais de rien, peu importe où il va aller dans le monde. Et il saura que Dieu est avec lui et que Dieu lui-même est sa source. Alors, ceci dit, j'aimerais ajouter que dans l'Église, nous devons en arriver au point où la guérison n'est pas un événement que nous allons créer, mais bien un style de vie. Tant et aussi longtemps que pour nous la guérison sera comme un spectacle, quelqu'un est malade, nous allons l'amener devant à l'Église et faire un grand show, alors il n'y aura pas de progression. Mais nous devons plutôt en venir au point où nous allons dans les centres commerciaux, les centres d'achat, et nous voyons des gens malades, nous sommes tellement persuadés que Dieu va les guérir qu'il ne sera pas nécessaire de les cacher derrière une étagère pour aller prier avec eux. Alors nous serons courageux et capables de prier devant même les gens qui passent. Si vous croyez que Dieu va le guérir, alors nul besoin de faire les choses en secret. Même on peut dire aux gens, vous voulez voir quelqu'un être guéri? Approchez, venez voir. Alors, ce que nous faisons dans l'Église, nous prêchons la guérison avec le but de susciter chez les auditeurs assez de foi pour qu'ils soient guéris. Jésus n'a pas fait cela. Les disciples n'ont pas fait cela. Est-ce que les gens peuvent recevoir la foi en écoutant? Bien sûr, en écoutant la parole de Dieu. Est-ce que les gens peuvent être guéris à cause de leur foi? Oui. Et il est dit, par exemple, concernant Paul dans les Actes des Apôtres, qu'il a perçu que tel homme avait la foi pour être guéri. Alors, il l'a touché, il l'a guéri. Alors, je suis pas en train de dire que cela est incorrect. Mais ce que je dis, c'est qu'il est incorrect de dépendre sur cela continuellement. Alors, lorsque vous allez pour guérir les gens en public, vous n'avez pas le temps de prêcher pendant 3 jours et de fortifier la foi des gens et de défaire toutes les fausses doctrines. Vous devez avoir suffisamment de foi pour eux et vous devez être capable de les délivrer. Et tant et aussi longtemps que vous allez croire que c'est Dieu votre problème, alors là, vous n'aurez jamais la foi. Vous ne serez jamais certain si Dieu veut les guérir ou pas. Vous savez, la foi, c'est pas nécessairement de croire. La foi, c'est de savoir. Il y a une différence là. Et lorsque vous le pratiquez suffisamment, alors là, vous comprendrez que vous allez au-delà de seulement croire. Je l'ai déjà dit, j'ai prié pour au moins 70 000 personnes à date. Et dans toute cette multitude de gens, je n'ai jamais prié pour un cas d'épilepsie qui n'a pas été guéri. Alors, cela démontre que pour certaines maladies, nous pouvons avoir un taux de réussite de 100%. Pour d'autres maladies, j'ai des taux de réussite de 94-95%. Il y a certaines maladies où nous voyons une guérison instantanée plus que d'autres maladies. Et il y a d'autres maladies, évidemment, que nous voyons une guérison progressive. Alors, je n'aime pas les guérisons progressives. Personne n'aime cela, d'ailleurs. Mais si j'avais le choix, je préférerais avoir seulement des guérisons instantanées, évidemment. Mais en tout cela, lorsque vous priez pour les gens, je l'ai déjà dit, vous devez oublier la personne qui se tient devant vous, et même vous devez oublier Dieu d'une quelconque façon. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne parlez pas à la personne malade, et vous ne parlez pas non plus à Dieu au sujet de cette personne malade. Alors, à ce moment-là, vous devriez déjà avoir parlé avec Dieu au sujet de tout ce que vous avez à discuter ensemble. Lorsque vous vous tenez devant la personne malade, ce n'est pas le temps de commencer à parler avec Dieu. Lorsque la crise éclate, ce n'est pas le temps de commencer à prier. Lorsqu'un problème se présente, il peut soit être interprété comme une crise pour la personne qui n'est pas préparée ou comme une occasion pour la personne qui est déjà prête. Si vous êtes déjà préparé à l'avance, alors là, cela devient une occasion, une opportunité. Si vous n'êtes jamais préparé, alors pour vous, ce sera une crise. Et si je parle avec vous au téléphone, je peux discerner, selon la manière que vous allez parler, si vous êtes préparé ou non. Vous allez au centre commercial, vous êtes là dans l'allée, et tout à coup, près de vous, une personne tombe par terre, morte. Alors, voici comment la majorité des chrétiens d'église réagiraient. Donc, la personne est là, par terre, vient de mourir. Alors, vous dites au gérant, prenez la personne, placez-la dans le congélateur pendant 3 jours, pendant que moi, je vais aller prier et jeûner. Et lorsque je serai prêt, je vais revenir et la ressusciter. C'est de cette manière que beaucoup d'églises agissent. Ils attendent que la crise se présente et là, ils décident de se préparer. Ça, c'est une mentalité d'église. Ce n'est pas la mentalité biblique. Et c'est la raison pour laquelle j'essaie de développer chez vous une pensée militaire. Vous savez, les gens dans l'armée, dans les forces spéciales, s'entraînent à tous les jours, comme si demain devait être la bataille. Alors, lorsqu'une situation de conflit se produit, le président va dire dans combien de temps tu peux avoir l'équipe là-bas, ils ne venaient pas à répondre, il faudrait peut-être quelques semaines pour que les gens soient prêts à aller. Non, à ce moment-là, il sera trop tard. Vous devez vivre en étant prêt. Alors, en ce qui me concerne, je ne sais jamais à qui j'ai affaire. Il m'est arrivé de répondre au téléphone en plein cœur d'un enseignement comme celui-là, parce que mon téléphone est toujours sur vibration. Alors, lorsqu'il vibre, je regarde mon téléphone, et si je vois que c'est une urgence, alors je vais simplement vous demander de prendre une pause et je vais répondre. Parce que j'ai un numéro spécial et je sais sur mon téléphone s'il s'agit d'une urgence. D'ailleurs, sur mon numéro 800, on l'explique sur le site aussi. Alors, si la personne va mourir dans les prochaines 24 heures, vous pouvez appeler ce numéro. C'est la raison pour laquelle je l'ai. Alors, cela pourrait être quelqu'un qui est tombé dans une rivière et qui s'est noyé. Il pourrait s'agir d'une personne qui vient de mourir d'un cancer. Ou il pourrait même avoir le témoignage d'une personne qui vient de ressusciter d'entre les morts. Alors, souvent, je vais répondre au téléphone et la plupart du temps, les gens sont là en train de crier. Et je ne sais jamais pourquoi ils crient jusqu'à ce que je les calme un peu. Mais lorsqu'ils crient comme cela, il ne peut s'agir que de 2 choses. Soit que la personne vient de mourir, ou soit que la personne vient de ressusciter. Mais la plupart des appels, c'est le premier cas où les gens viennent de mourir, où ils sont en train de mourir. Alors, je n'ai pas la prétention de savoir quel appel téléphonique j'aurai, par exemple, dans 3 jours. Et la vie de certaines personnes dépend de si je suis prêt ou non. Et j'ai fait un choix il y a déjà plusieurs années, c'est que je n'avais jamais placé ma propre vie ou celle de ma famille et de mes enfants entre les mains d'une personne qui ne serait peut-être pas prête, parce que je ne sais pas ce qui se passe dans la tête, dans le cœur d'autres personnes. Et le diable sait parfois quand nous attaquer. Par exemple, j'ai découvert que la journée où il y a souvent, ou comme de manière très commune, toujours des attaques de l'ennemi, c'est le dimanche, juste avant que vous alliez à l'église. Pourquoi? Parce que vous croyez qu'il est nécessaire que vous alliez à l'église avec une certaine pensée particulière ou de dégager une certaine atmosphère pour être capable d'adorer Dieu. Alors le diable, sachant cela, va vous attaquer pour être certain que vous allez arriver à l'église et qu'il vous faudra au moins 45 minutes avant de vous dépouiller de tous les déchets qu'il a lancés sur vous, pour que finalement vous puissiez adorer Dieu ou bien entendre la prédication de la Bible. Le diable ne veut pas que vous soyez libre. Alors il va mettre le paquet toujours, les problèmes avec l'automobile, les problèmes de relations avec vos proches, c'est toujours la même chose. Ce que vous ne réalisez certainement pas, c'est que peu importe les attaques et les combats que vous traversez, cela ne change pas votre état spirituel. La Bible dit, si vous êtes en colère, ne péchez pas. Croyons que si nous ressentons de la colère, donc cela, il y a un empêchement, je ne peux pas prier, je ne peux pas avoir vraiment la bonne attitude de penser pour que Dieu m'utilise. Et notre attitude de penser n'a rien à voir avec la prière. Je peux être agité dans mon âme et pourtant être très fort à mon esprit. Alors, tant aussi longtemps que vous croyez que votre âme, c'est votre esprit, alors là, vous aurez continuellement des problèmes. Et vous dites peut-être, alors comment vais-je savoir si je marche dans l'esprit? La réponse est très simple. Lorsque vous marchez dans l'esprit, vous accomplissez ce qui est écrit dans la Bible. Lorsque vous n'accomplissez pas ce qui est dans la Bible, alors là, vous ne marchez pas selon l'esprit. C'est aussi simple que cela. Alors, vers les années 1981, il y a eu un événement à l'église de John Osteen, et je suis allé là. Alors, à cette époque-là, je n'avais eu aucune ordination, je n'étais pas pasteur ou rien de cela. J'accomplissais le ministère, mais je n'avais eu aucune ordination d'aucune façon. Et ils ont fait l'annonce en disant nous allons avoir une rencontre seulement pour les pasteurs avec toute une brochette d'invités qui vont répondre à vos questions. Alors, parmi ces invités, il y avait Kenneth Hagin, John Osteen était là, il y avait M. Schombach, le Dr. Summerall, il y avait aussi T.L. Osborne. Vous savez, tous les gens très connus dans le mouvement de la foi. Alors, je me suis dit en moi-même, « Oh là, j'aimerais vraiment aller à cette rencontre, mais je ne suis pas un pasteur. » Et je me suis dit, certainement, il doit vérifier à l'entrée vraiment si vous êtes un pasteur ou pas. Alors, j'avais mon plan, je me suis dit, je vais attendre que la réunion commence, et puis je vais me faufiler doucement, je vais m'asseoir sans trop attirer l'attention. Après un certain temps, plusieurs gens demandaient des questions, et moi, je me suis levé, et j'ai dit, oui, j'ai une question pour le Dr. Summerall. Alors, il m'a regardé, alors je lui ai posé la question, et il a ajouté, est-ce que tu peux venir chez moi à South Bend me rencontrer? Alors, je lui ai répondu, oui, je ne sais pas quand je vais pouvoir aller là. Alors, il a répondu, lorsque tu pourras y aller, viens me voir. Alors, je retourne rencontrer mon épouse et je lui dis, chérie, je m'en vais à South Bend. Le Dr. Summerall m'a dit que je devais aller rencontrer. Alors, vous savez, à cette époque-là, je n'avais rien. Je n'avais même pas de bonne auto pour m'y rendre. Alors, finalement, j'ai décidé d'y aller, mais en autobus. Alors, je n'avais rien avec moi. Je suis parti avec mon petit sac à dos. Je ne connaissais personne dans cette ville. Je savais pas où aller. Or, j'ai pris l'autobus, je suis arrivé là, je suis allé à l'église, il y avait une réceptionniste, et je lui ai dit, je veux rencontrer le Dr. Summerall. Elle m'a dit, est-ce que tu as un rendez-vous? Je lui ai dit non, mais lui-même m'a dit de venir le voir. Alors, elle m'a répondu, très bien, va dans ce couloir et tourne à droite. Alors, je suis allé, j'ai frappé à la porte de son bureau, et j'entends cette voix grave, entrez. Alors, je suis entré, et vous savez, c'était une pièce qui est faite plutôt rectangulaire, sur une longue pièce. Alors là, il y avait un fauteuil, il y avait plein de trucs d'affichés sur les murs. Lui est à l'autre bout, il est assis à son bureau et il écrit. Alors, j'avais dit à ma femme avant de quitter, alors j'ai deux questions à lui poser. Et si seulement il peut me donner la réponse à mes deux questions, cela va tout changer pour moi. La première question était, comment puis-je savoir quand je suis conduit par le Saint-Esprit? La deuxième question était, comment puis-je être certain de la volonté de Dieu? Et je me disais, si je peux avoir ces deux réponses, alors tout le reste va bien fonctionner. Alors, je suis là dans le bureau, et je suis assis, lui continue d'écrire, et tout à coup, il cesse d'écrire, lève sa tête, il me regarde, et il me dit comme ça, « Pour connaître la volonté de Dieu, lis la Bible. Pour être conduit par le Saint-Esprit, fais ce que dit la Bible. » Et là, il continue à écrire. Alors, j'étais tellement surpris et je me suis dit, bon, alors, je crois bien que je peux retourner chez moi maintenant. Ah, c'est la raison pour laquelle je suis venu. Tout compte fait, je suis demeuré là et même j'ai trouvé un emploi dans cette ville. Alors, j'ai trouvé un emploi que je n'avais quand même pas beaucoup, mais j'ai réussi à amasser un peu d'argent comme cela. Alors là, quand j'ai eu un peu de sous, je suis allé chercher ma famille. Nous sommes déménagés dans cette ville. Et après un certain temps, je n'ai jamais fait partie du staff, mais mon épouse et moi sommes devenus responsables de la ligne de prière. Alors nous devions trouver des gens pour travailler, comme ça, pour répondre au téléphone pour les gens qui avaient besoin de prière. Et lorsque nous n'avions pas suffisamment de candidats, moi et mon épouse, nous faisions le travail. Alors souvent, nous travaillions durant la nuit parce que, évidemment, il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient prendre ce quart de travail. Nous étions installés dans l'église, les lignes téléphoniques étaient installées là. Donc, nos petits-enfants, nous les installions sur les bancs pour qu'ils puissent dormir durant la nuit. Et moi et mon épouse pouvions répondre pour la ligne de prière. D'ailleurs, c'est la première fois où j'ai pu expérimenter une guérison par téléphone. Il s'agit d'un homme à qui Dieu a recréé un nouveau cœur. Et je me souviens, entre autres, d'une nuit, il était peut-être vers les 4 heures du matin, alors c'est sombre, dans l'église, tout est sombre. Alors, nous étions derrière, et tout à coup, j'entends comme du bruit vers l'avant du bâtiment, donc je me suis dit, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Alors, il y aurait pu avoir un voleur, parce que nous étions dans une section de la ville qui n'était pas très, qui n'avait pas une bonne réputation. Et tout était sombre, il y avait seulement une grande carte du monde devant, avec une lumière qui était pointée sur la carte. J'avance lentement, je me cache un peu derrière les colonnes pour savoir si vraiment il y a quelqu'un là. Et tout à coup, je vois là-bas le Dr. Summerall. 4 heures du matin, tout bien habillé. j'étais caché derrière une colonne et finalement je l'ai observé un peu. Alors il se tenait là devant cette grande carte du monde et il disait « Cette rébellion-là au Congo, au nom de Jésus, va cesser. Le président est un homme bon et il va demeurer là en position de pouvoir. » Et là, il continuait à marcher et c'était la manière dont il priait. Je l'ai entendu prier pour plusieurs de ces nations et la majorité des présidents de ces nations, il les connaissait par leur nom. Et cela s'est produit pendant environ une semaine. Chaque matin, il venait et moi, chaque matin, j'allais me cacher derrière la colonne pour l'observer et l'entendre prier. Vous apprenez beaucoup sur une personne lorsque vous l'écoutez prier. Alors, un de ces matins, il était là, il marchait tout en priant. Moi, j'étais caché derrière la colonne et j'entends cette voix grave qui dit « Vas-tu demeurer là dans l'ombre ou si tu vas venir avec moi prier? » Alors, j'aurais aimé tout simplement disparaître. Alors, j'étais un peu timide. Je me suis approché lentement, mais je suis demeuré quand même à distance. Et lui continue de prier. Et moi, je marchais un peu plus loin et je priais presque à voix basse. Et tout à coup, j'entends sa voix qui dit « Alors, si tu dois prier, prie! » Alors, par la suite, pendant toute une année, nous avons prié ensemble. Je me souviens, à un certain moment, c'était la veille de Noël. Donc, il y avait de la neige là, parce que c'est dans l'Indiana. Et d'ailleurs, c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un utiliser dans la rue des skis. Alors, les skis de fond, je me suis dit à ce moment-là, qu'est-ce que je fais dans cette ville? Je suis un gars du Sud, n'est-ce pas? Alors, bref, cette soirée-là, mon auto, j'ai eu un problème avec l'auto et je n'ai pas pu me rendre à l'église pour la ligne de prière. Alors, lorsque j'ai rencontré le Dr. Summerall la journée suivante, il m'a dit comme ça, « Où étais-tu hier soir? » Alors, je lui ai répondu, « C'est mon auto. Alors, l'auto est fini, je n'ai plus d'auto. » Il y avait quelqu'un avec lui, c'était le frère Murphy qui était en réalité son beau-frère. Alors, Dr. Summerall a dit à son beau-frère, « Je veux que tu trouves une auto pour ce jeune couple, et cela avant 5 heures ce soir. » Et là, il a quitté la pièce. Et je dois vous dire que cette journée-là, avant 5 heures, j'ai eu mon auto. Ce n'était pas une auto neuve ni très fancy, mais c'était une auto qui roulait. D'ailleurs, c'est la manière que lui vivait aussi. Il vivait d'une manière très humble. Il avait un petit logis derrière l'église. Et je peux vous dire que, en regardant sa manière de vivre, vraiment, cet homme-là était vraiment un homme de Dieu. Il a fait du ministère pendant 50 ans et même pas l'ombre d'un scandale dans son ministère. Et je me souviens d'une soirée, il y avait une dame qui était venue à l'église et nous étions tous sur le point de partir. Et elle lui a demandé, « Frère Summerall, est-ce que tu peux me reconduire chez moi? » Alors, il a accepté. Alors, nous étions tous là dans le stationnement. Alors, la dame est allée, elle a pris la portière pour s'asseoir devant. Et le Dr. Summerall lui a dit, « Non, tu t'assois derrière. » Alors, la dame, un peu offusquée, ne comprenait pas très bien ce qui se passait. Elle lui répond, « Docteur Summerall, je comprends pas. Est-ce que je ne suis pas assez bonne pour vous pour que je puisse m'asseoir devant? » Et il lui a répondu, « Non, tu es une bonne femme. Le problème est que tu n'as pas le même nom de famille que moi. Alors, tu n'es pas Madame Summerall. Et si jamais je te laisse asseoir devant et il y a des mauvaises langues qui nous voient comme ça, je vous dis que la journée suivante, toutes sortes de fausses rumeurs seraient répandues dans toute la ville. » Et il m'a dit, il y a une bonne façon de faire les choses, il y a une mauvaise façon de faire les choses. Et c'est la manière dont cet homme agissait. Il était un homme spirituel, mais aussi très pratique. Il avait beaucoup de sagesse. Je me souviens, à une autre occasion, deux homosexuels sont venus et ils ont dit au Dr. Summerall, « Nous voulons devenir membres de votre église. » Nous sommes bien ici, les gens sont gentils, mais nous sommes homosexuels. Et c'est Dieu qui nous a fait comme ça. Alors, est-ce que tu nous donnes la permission d'être membre de ton église? Et il a répondu, premièrement, Dieu ne vous a pas fait comme cela. Et il leur a dit, deuxièmement, oui, vous pouvez venir à l'église, mais vous ne serez pas membre de mon église. Parce que pour devenir membre de mon église, vous devez vivre une vie sainte. Et Dieu ne vous a pas fait comme cela, parce que si Dieu vous aurait créé comme cela, et si cela est bon pour vous, alors cela devrait être bon aussi pour le reste de l'humanité. Et si c'était bien pour le reste de l'humanité, alors en une seule génération, l'humanité pourrait s'éteindre. Alors si cela n'est pas bon pour la race humaine, cela n'est pas bon non plus pour vous. et lorsque vous vous serez repenti, oui, vous pourrez devenir membre de mon Église. » Et quelques mois après cela, alors ces deux hommes sont demeurés à l'église, ils se sont séparés, ils ont été délivrés, et la dernière fois que je suis allé à l'église, ils étaient toujours là, et ils allaient très bien. Il a ajouté ceci la première fois, il leur a dit, « Si tous les coqs étaient comme vous, alors je n'aurais aucun œuf dans mon assiette pour mon petit déjeuner. » Alors, en l'entendant, je me suis dit, « Oui, cet homme a vraiment la sagesse de Dieu. » Et à un autre moment, il y a des gens qui sont venus le rencontrer et ceux qui croient à la doctrine de l'unité de Jésus, dans le sens que Jésus est en même temps Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, ils sont venus pour le convaincre de changer sa doctrine. Alors, après environ une heure d'arguments, il les a regardés. Il dit, « Bon, alors maintenant, mettons les choses en ordre. » Et il leur a dit, « Vous appelez Jésus Père. Moi, je l'appelle mon frère. Alors, s'il en est ainsi, à partir d'aujourd'hui, je veux que vous m'appeliez Oncle Summerall. » Alors, les deux gars se sont regardés, ils ont dit, « Cet homme est complètement fou. » Ils sont partis et ils ont quitté le lieu. Alors, parfois, une petite phrase a plus de puissance que beaucoup d'arguments théologiques, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est en regardant vivre cet homme que j'ai appris que je pouvais demeurer, être un homme spirituel, en même temps d'être accessible aux gens, de demeurer simple et vrai. Alors, je n'ai pas besoin de me protéger ou de protéger une quelconque onction sur ma vie. C'est Dieu qui me protège. D'ailleurs, ce n'est pas mon rôle de protéger le Saint-Esprit, n'est-ce pas? La même chose lorsque les gens dans certaines églises vont dire, « Oh, s'il vous plaît, demeurez tranquille, nous ne voulons pas déranger le Saint-Esprit. » Laissez-moi vous dire que si je suis en train de prier pour une personne et que vous êtes en train de parler à quelqu'un, cela ne va pas du tout attrister le Saint-Esprit. D'ailleurs, ce qui va l'attrister, c'est que si vous passez devant une personne malade et que vous la laissez malade comme ça, ça va l'attrister. Alors, vous savez, à la limite, s'il y a deux personnes qui sont en train de parler durant que je prie, s'ils parlent trop fort, à la limite, ils vont me déranger, moi, mais ils ne vont pas déranger le Saint-Esprit. On ne peut pas déranger le Saint-Esprit de cette manière-là. D'ailleurs, ça m'est arrivé d'être dans des endroits où il y avait de la distraction, et c'est l'Esprit-Saint lui-même qui me ramenait à l'essentiel et qui me disait, « Curry, concentre-toi sur les gens malades. » Alors, c'est ce que lui désire, guérir ces personnes. Je n'ai jamais ressenti le Saint-Esprit s'offusquer parce qu'il y avait des gens qui parlaient dans la salle. Alors, les gens vont dire, « Oh, le Saint-Esprit est comme une colombe. Il faut vraiment faire attention. » C'est vrai qu'il est venu comme une colombe, mais il est aussi celui qui va donner l'énergie aux anges qui vont venir sur terre et être capables de battre une armée entière en une seule journée. Et vous allez me dire qu'on va offenser l'Esprit-Saint parce que nous sommes en train de parler. Je crois que notre notion du Saint-Esprit est fausse. Il est le créateur de l'univers. Il est le plus grand guerrier que la terre n'aura jamais connu. Avant qu'il puisse vous guérir, il a dû être cet homme de guerre qui est venu combattre pour votre guérison. Alors, tout le monde agit comme si Jésus était descendu aux enfers et tout à coup, Satan l'a vu, il a dit, « Ah, c'est toi, tiens, je te donne les clés. » Non, ce n'est pas comme cela que les choses se sont produites. Jésus a arraché les clés du diable. Et nous agissons parfois comme s'il n'y avait pas une vraie guerre. Mais oui, il y a cette guerre et elle est réelle. Souvenez-vous du cas de Daniel, la réponse devait venir la journée même où il avait prié. Mais il y avait un combat spirituel qui était là à cause de cette situation. Et parfois nous croyons, ah oui, je dois beaucoup prier afin que Dieu envoie la réponse. Non, la réponse était déjà là la journée même où il a commencé à prier. Mais il y a parfois des êtres qui essaient de nous arrêter. Et même à cela, nous parlons de Daniel. Pour nous, même cela est différent. C'est la raison aussi pour laquelle j'entends souvent des gens, lorsque nous parlons de guérison divine, alors les premières choses qui viennent à leur pensée, alors l'écharpe dans la chair de l'apôtre Paul, l'estomac de Timothée, et l'autre personne qui a été laissée par Paul dans une telle ville, quelque part, malade. Et évidemment, le cas de Job. Ils connaissent tous ces passages de la Bible, et vous leur demandez, très bien, donne-moi 5 versets de la Bible qui nous garantissent la guérison. Et la plupart de ces gens ne pourront jamais vous citer au moins ces 5 versets. Pourtant, on connaît toutes les raisons pour lesquelles Dieu ne devrait pas agir pour guérir. Alors, j'aimerais dire, premièrement, concernant Paul, qu'il n'y a aucune évidence biblique qui nous permette d'affirmer que son écharpe dans la chair était une maladie. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont interprété différentes idées par rapport à ce passage-là, mais je peux vous prouver qu'il n'en est pas ainsi. D'ailleurs, j'ai donné un enseignement complet sur ce sujet-là. Et je suis capable de prouver que l'écharpe dans la chair de Paul n'était pas une maladie. D'autres vont dire, « Ah oui, mais moi, je suis un peu comme Job. » Non, tu n'es pas comme Job. Job était dans l'ancienne alliance. Il n'avait pas un avocat auprès du Père comme nous avons. Job n'était pas né de nouveau. Il n'avait pas l'Esprit Saint qui demeure en lui. Nous n'avons d'ailleurs aucune idée de quel genre d'alliance il avait avec Dieu. Alors, on dit que le livre de Job est le plus vieux livre de la Bible. Nous n'avons aucune idée de ce que Job connaissait sur Dieu ou de quel genre d'entente il avait avec Dieu. Il n'y a aucune évidence que Dieu lui avait promis à Job quoi que ce soit. Et là, les gens vont dire, oui, mais Dieu a donné la permission à Satan d'agir. Mais si vous lisez attentivement, vous allez vous rendre compte que Dieu, c'est comme si Dieu disait à Satan, oui, voilà, Job est dans tes mains. Il était déjà dans sa main. Alors pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans la nouvelle alliance. Il n'était pas encore sous la protection divine. Il était sous la loi. D'ailleurs, il est clairement dit que c'est Satan qui a envoyé les ulcères. Ce n'est pas Dieu. Et il est dit à la fin du livre que Dieu a détourné sa captivité, ce qui signifie que pendant tout ce temps, Job était dans la captivité. Alors Dieu a détourné cela, il l'a béni, il lui a donné en double tout ce qu'il avait auparavant. D'ailleurs, apparemment, il a même reçu une nouvelle femme. Bien entendu, toute femme qui va vous dire de maudire Dieu et de mourir, ce n'est pas la bonne femme pour toi. N'est-ce pas? Oui, parce que ça, parfois, ne réalisons pas toujours ce que certaines épouses peuvent faire. Et dans l'autre cas, celui de l'estomac de Timothée, où est-ce que Paul a demandé au jeune Timothée de prendre du vin pour ses irrégularités de l'estomac? Alors, encore là, c'est absurde. Ce serait absurde de dire que Paul aurait dit à Timothée, « Timothée, lorsque ton estomac te fait mal, alors vas-y, prends du vin sur le toit. » Non, c'est lorsque nous allons dans des pays étrangers où l'eau n'est pas très propre à la consommation, on prend quelques gouttes de vin, on place cela dans l'eau et cela tue les germes. Alors, le vin n'était pas utilisé comme un remède. Il l'utilisait pour purifier l'eau. Et l'autre cas, où il est dit qu'il a laissé Trophime malade. Bon, moi aussi, j'ai laissé des gens malades derrière moi. Par exemple, si je vais à Walmart, et je pourrais prier là pour 100 personnes et les guérir, et à moins qu'il n'entre aucune nouvelle personne dans l'établissement, alors là, moi aussi, j'aurais laissé des gens malades derrière moi. Gordon Lizzie a donné un bon exemple de ce verset-là. Donc, il était allé prier pour une personne, et lorsqu'il est revenu à la maison, sa femme lui a demandé, puis comment ça a été? Et il a répondu, alors il a dit, je n'ai vu aucun résultat, je l'ai laissé malade. Même il était un peu découragé de cela. Et alors, ils ont eu une réunion d'église le même soir, et tout à coup, la dame pour qui il était allé prier était là à l'église, les mains dans les airs, en train de louer Dieu. Il est allé la voir et il lui a dit, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a répondu, 5 minutes après que tu es parti, j'ai été guéri. Alors, nous ne savons pas vraiment ce qui s'est produit avec Trophime. D'ailleurs, il a écrit à un autre endroit, « Dieu nous a délivrés », et il a inclus Trophime, là. À cette époque-là, Trophime allait très bien, donc. Il est étonnant à quel point nous voyons toujours les choses d'une manière négative, et nous allons toujours penser négativement au sujet de Dieu. Et pourtant, le caractère de Dieu a toujours été de rien faire d'autre que de bénir, que de guérir les gens. C'est ce que Jésus a fait. Mais nous aimerions plutôt dire, « Voici, Dieu n'a pas agi ici, Dieu n'a pas agi là, il n'a pas fait ceci. » Et en plus de cela, nous devons considérer que la plupart des gens dans ces récits n'avaient pas comme nous le privilège de bénéficier de l'expiation accomplie par Jésus. Et la révélation que Paul a eue était en train de se développer au fur et à mesure qu'il avançait. L'Église primitive n'avait pas la révélation qui a été dévoilée par l'apôtre Paul. Ils ne savaient pas toutes ces choses. Ils étaient en train d'écrire la théologie au fur et à mesure. D'ailleurs, si vous voulez utiliser le livre des Actes pour former une théologie parfaite, alors là, vous allez vous rendre compte qu'il y a parfois des choses étranges. Et si vous y tenez tellement, alors je vous dirais, quelle théologie allez-vous prôner, celle de Pierre ou celle de Paul? Alors si vous utilisez la théologie de Paul, c'est la grâce. Si vous allez du côté de Pierre, alors là, il faut continuer d'être circoncis, il faut continuer d'aller au temple. Et cela se situe dans le livre des Actes. Parce que Pierre n'a pas eu toujours le courage d'avouer et de dire « Oui, ce que Paul prêche est exact. » Et même Paul, à un certain moment donné, était un peu ébranlé lorsqu'il a fait circoncire Timothée. Il est retourné sur la loi jusqu'à un certain degré. D'ailleurs, l'Église de cette époque ne savait même pas que les gentils pouvaient vraiment être sauvés. Du moins jusqu'à ce que Corneille soit sauvé et sa maisonnée. Alors cela nous situe au moins 10 années après que l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Alors souvent, nous disons, nous devons être une église comme le livre des Actes. Non. Alors pourquoi retourner et devenir un bébé? L'église du livre des Actes est une église comme un enfant. Vous devriez être l'église du livre d'Éphèse. une église glorieuse et victorieuse, c'est le type d'église pour lequel Jésus va revenir. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut ignorer le livre des Actes. Il y a de bons exemples, il y a de bonnes choses dans ce livre. Nous sommes appelés à devenir une église pure et sans tache, une église qui grandit, qui croit en Jésus-Christ en toutes choses. Alors, si vous voulez, maintenant, je vais vous envoyer à la pause. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, je ne sais pas si on désire prendre l'offrande maintenant. Alors, s'il vous plaît, levez-vous. Alors, avez-vous appris quelque chose de tout cela? J'espère. Il y a une question ici. Comment pouvons-nous savoir lorsque nous devons prier pour une guérison ou chasser un démon? La réponse est simple. Essayez de chasser le démon. S'il n'y a rien qui se produit, guérissez la personne. C'est tout. Bon, je pourrais peut-être ajouter ceci. C'est que nous, dans l'Église, souvent, nous essayons d'être très spécifiques. Alors, si vous devenez trop spécifique, ne dites pas la chose de la bonne manière, de la bonne façon. Alors là, le diable va agir avec la même manière que vous et il va vous tenir compte de toutes sortes de technicalités. Et si vous dites des choses spécifiques et que vous n'êtes pas vraiment exact, le diable va le savoir, il va se rendre compte que vous ne savez pas de quoi vous parlez et il ne vous obéira pas. Mais si, d'une façon générale, vous demeurez simple et que vous dites seulement à la personne « soit guérie, soit libérée » et des choses comme ça, alors lui ne sait pas ce que vous savez ou ce que vous ne savez pas, il a tout simplement aucun choix de vous obéir. Alors soyez le plus possible très général et spécifique lorsque c'est vraiment nécessaire. Vous comprenez? Ne vous laissez pas entraîner par le diable dans toutes sortes de mécanismes. Jésus n'agissait pas comme cela. Il disait à la personne, « Qu'est-ce que tu veux? Alors voici, reçois-le. » Tout simplement. Sois guéri, reçois ta guérison. C'est tout. D'ailleurs, Jésus nous a dit que nous ferions des choses encore plus grandes que lui et nous le ferons évidemment avec moins d'efforts. Jésus avait un ennemi à combattre et pour nous, techniquement, cet ennemi a déjà été battu. Et c'est pourquoi cela devrait être beaucoup plus facile pour nous actuellement. Alors, si Jésus lui-même a été aussi général dans ses prières, alors évidemment, nous pouvons être comme lui. Pourtant, l'Église a rendu les choses beaucoup plus difficiles, tandis que ça devrait être au contraire plus facile. Tout simplement, maintenant, je crois que nous allons terminer et nous allons prier. Alors, Père, au nom de Jésus, nous te demandons, Seigneur, pour toutes les personnes qui vont donner à l'offrande, qui peuvent donner à l'offrande, alors nous te demandons de les bénir et nous te demandons, Seigneur, de bénir ces ressources financières, qu'elles soient utilisées pour ton royaume. Et Père, nous prions aussi que tu bénisses ceux qui aimeraient donner mais qui n'ont rien à donner. Bénis-les. Alors nous te remercions, Père, au nom de Jésus, pour la capacité que nous avons d'agrandir et de propager ton royaume partout sur la terre. Au nom de Jésus. Amen.